Vous écoutez, on lit pour vous.
Journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, entre progrès et régression. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. La Thaïlande légalise officiellement le mariage entre personnes de même sexe, alors qu'au même moment, le président américain Donald Trump a révoqué un décret défendant les LGBT+. Que faut-il attendre dans le monde en matière de droits pro et anti-LGBTQ+, dans un avenir prochain? L'année 2025 a vu ou verra la naissance de nombreuses mesures et lois dans le monde vis-à-vis des personnes de la communauté LGBT+. Le 23 janvier 2025, la Thaïlande légalisait officiellement le mariage entre personnes de même sexe, rentrant dans la liste des nouveaux pays adoptant des lois en faveur des minorités sexuelles. Dans une optique radicalement différente, quelques jours plus tôt, le président américain Donald Trump a révoqué un décret relatif à la lutte contre les discriminations basées sur le genre ou l'orientation sexuelle. La question des LGBT+ continue encore de susciter d'importants clivages dans le monde, alors que de multiples décisions politiques continuent d'animer les assemblées de nombreux pays. Quelles sont les diverses initiatives favorables ou défavorables aux minorités en question récemment mise en place ou à venir? L'Europe divisée entre Est et Ouest. En 2024, les pays européens étaient nombreux à faire voter des lois destinées aux personnes LGBT+. Tout comme la Grèce, la même année, le Liechtenstein avait notamment voté et adopté le mariage pour tous. Il s'agissait du dernier pays de langue allemande à appliquer cette mesure. La République tchèque a aussi fait voter de nouveaux droits favorables aux couples homosexuels en 2024. Le Parlement tchèque a cependant refusé de changer les unions civiles de même sexe en mariage, faute de compromis lors d'un vote. Le Monténégro devrait, par exemple, débattre de l'auto-identification des personnes trans dans l'année, après l'introduction d'un projet de loi en mars 2023. L'Europe de l'Est semble, pour sa part, adopter de plus en plus de mesures allant dans une direction contraire. Ainsi, en 2024, la Bulgarie votait une loi interdisant la propagande et promotion LGBT à l'école. Ce projet est très similaire à un texte également voté en 2021 par la Hongrie et s'inscrit dans un mouvement lancé par la Russie dès 2013. L'an dernier, le pays de Vladimir Poutine a d'ailleurs ajouté le mouvement LGBT à la liste des organismes extrémistes et terroristes, ouvrant la voie à de nouvelles peines d'emprisonnement. En Asie, des pays avec des projets de loi plus favorables. Le 23 janvier, la Thaïlande a légalisé officiellement le mariage entre personnes de même sexe. Toutefois, celui-ci n'est pas rendu possible en Corée du Sud, même si, l'an dernier, la Cour suprême du pays a reconnu de nouveaux droits aux couples homosexuels, notamment vis-à-vis des conjoints de même sexe, qui peuvent désormais bénéficier de l'assurance maladie de leur partenaire. Au Japon, deux autres décisions de la Haute Cour sont attendues concernant l'égalité du mariage. Le Japon est toujours l'un des seuls pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe. Parmi ses membres, on retrouve, bien évidemment, les États-Unis qui, après avoir réélu Donald Trump, pourraient connaître des changements. Trump se prononce contre le, délire transgenre. Quelques heures à peine après son investiture, le 20 janvier 2025, le président républicain Donald Trump révoquait un texte signé par Joe Biden au premier jour de son mandat, en janvier 2021, visant à combattre les discriminations basées sur le genre ou l'orientation sexuelle. À cette occasion, le milliardaire déclarait qu'à compter d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis est qu'il y a désormais deux genres seulement, hommes et femmes. La suite de son mandat paraît peu favorable à venir en aide aux représentants et représentantes de ce qu'il qualifie de délire transgenre. Du côté du continent sud-américain, le Brésil élabore quant à lui un projet de loi sur le mariage pour tous qui pourrait entrer en vigueur en 2025. Les couples homosexuels peuvent se marier depuis 2011, à la suite d'une décision de justice, mais un projet de loi en discussion leur offrirait la même protection que les partenariats hétérosexuels. En Afrique, les législations se durcissent. Parmi les 33 pays faisant partie du territoire africain, on peut noter divers projets de loi pour 2025. Le Ghana appliquera cette année un projet de loi sur les droits sexuels et les valeurs familiales, voté à la fin décembre 2024. Ce texte, similaire à un autre voté la même année au Mali, prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne ayant eu des relations homosexuelles et entre 3 et 5 ans pour la promotion, le parrainage ou le soutien intentionnel d'activités LGBT+. L'année 2025 permettra également au Libéria de débattre d'un projet de loi assez similaire, prévoyant l'emprisonnement à vie pour homosexualité aggravée, présenté au Parlement en août 2024. Pour finir, la Namibie a, l'an dernier, dépénalisé les relations homosexuelles consensuelles. C'était Journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie entre progrès et régression, un texte d'Yves Lafontaine, paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue.
L'histoire du 17 mai, origine et évolution de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence. La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, initiée en 2003 par la Fondation Émergence, s'est imposée mondialement. Elle sensibilise aux enjeux LGBTQ+ et promeut l'inclusion. La première édition en 2003. En 2003, la Fondation Émergence organise la première édition de la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. Cette journée a lieu le 4 juin sous la thématique « Choquant pour les homophobes ». Cet événement marque un tournant important avec l'organisation d'un colloque réunissant un groupe important de scientifiques s'intéressant aux questions relatives à l'orientation homosexuelle. La Fondation procède également à la première remise du prix « Lutte contre l'homophobie » qui est décerné à Mme Jeannette Bertrand. Enfin, un sondage sur l'homophobie est publié, mettant en lumière les réalités et perceptions entourant ce sujet. L'évolution de la Journée internationale. Après cette première édition, l'idée d'une journée dédiée à la lutte contre l'homophobie gagne en popularité et est adoptée dans plusieurs pays. En 2005, la Fondation Émergence collabore avec la Belgique pour soutenir le dépôt d'un projet de loi au Parlement visant à instaurer une journée nationale de lutte contre l'homophobie. La même année, en France, Louis-Georges Thine lance une initiative qu'il nomme « La Journée internationale contre l'homophobie », et choisit le 17 mai, en référence à la décision de l'Organisation mondiale de la santé en 1990 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. En 2006, la Fondation Émergence choisit de déplacer au 17 mai la journée qu'elle organise depuis 2003 afin d'harmoniser ses efforts avec l'initiative internationale. Lors de la Conférence internationale sur les droits humains des personnes LGBT, Montréal propose une résolution appelant tous les pays du monde ainsi que les Nations unies à reconnaître officiellement la Journée internationale contre l'homophobie à cette date. En 2014, la Fondation Émergence mène une consultation avec 12 organismes œuvrant sur les enjeux trans. Cette démarche aboutit à l'élargissement de la mission de la journée, qui devient officiellement la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Au fil des années, la journée a continué d'évoluer en abordant divers enjeux de sensibilisation. Aujourd'hui, elle est célébrée dans près d'une centaine de pays à travers le monde par des individus et des organismes engagés dans la défense des droits des personnes LGBTQ+. A-t-on encore besoin de cette journée? La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est un moment clé pour sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre. Elle souligne l'importance d'actions concrètes pour bâtir une société plus inclusive et respectueuse de toutes les identités. Tant que certaines personnes ne pourront pas vivre ouvertement leur orientation sexuelle ou leur identité de genre sans craindre la discrimination ou la violence, cette journée restera indispensable. C'était l'histoire du 17 mai. Origine et évolution de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence.
Les droits LGBT+, mieux protégés dans des dizaines de pays, mais pas reconnus dans la plupart. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. Malgré les progrès réalisés, le mariage homosexuel, l'adoption, les changements de marqueurs de genre et la reconnaissance du troisième genre restent méconnus dans de nombreux pays. Certains ont même mis en œuvre des politiques plus régressives. Les relations homosexuelles devenues légales dans 2/3 des pays. L'un des droits fondamentaux des personnes LGBT+, est d'aimer qui elles aiment sans crainte de poursuites judiciaires. Le libre choix de son partenaire intime est devenu davantage possible depuis la seconde moitié du 20e siècle, lorsque les relations homosexuelles ont été légalement protégées dans de nombreux pays. À la fin du 18e siècle, les relations homosexuelles n'étaient légales que dans une vingtaine de pays, dont la France, le Japon et l'Empire russe, indiquent les recherches de Jean-François Mignot. Alors que l'Empire russe a rendu les relations homosexuelles illégales en 1832, plusieurs dizaines de pays, notamment en Amérique latine, les ont légalisées au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle. Après des revers en Europe dans les années 1930, la légalisation a repris dans les années 1960, notamment en Europe occidentale. Les progrès se sont accélérés dans les années 1990, en commençant par l'Europe de l'Est. En 2020, les actes sexuels entre personnes de même sexe étaient légaux dans 133 pays sur les 202 étudiés par Mignot. Les tendances sont encore plus positives si l'on considère le nombre de personnes vivant dans des pays où les relations homosexuelles sont légales, par exemple des pays très peuplés comme la Chine et l'Inde. Dans des dizaines de pays, les droits fondamentaux des personnes LGBT+ sont désormais protégés. Les personnes LGBT+ ne souhaitent pas seulement vivre à l'abri des poursuites judiciaires pour leurs relations homosexuelles. Nombre d'entre elles souhaitent également se marier, adopter des enfants avec leurs partenaires et certaines souhaitent que leur gouvernement reconnaisse leur identité transgenre ou non binaire. Selon les données d'Equaldex, jusqu'aux années 1990, aucun pays ne protégeait les droits des personnes LGBT+, au-delà de l'autorisation des relations homosexuelles. Cette situation n'a changé qu'au cours des dernières décennies. En 1992, l'Estonie a été le premier pays à autoriser un changement de marqueur de genre sans restriction, et quelques dizaines de pays ont fait de même au cours des années suivantes. Le Canada a été le premier pays à autoriser les adoptions conjointes en 1995, et plus de 30 pays ont suivi depuis. Il en va de même pour le mariage entre personnes de même sexe que les Pays-Bas ont légalisé pour la première fois en 2001. Enfin, en 2011, l'Australie est devenue le premier pays à reconnaître un genre non binaire sur ses passeports. Depuis, plusieurs autres pays ont légalement reconnu le troisième genre. Lorsque l'on examine le nombre de personnes vivant dans des pays qui protègent ces droits fondamentaux, on observe une tendance positive concernant le mariage entre personnes de même sexe. L'adoption et le changement des marqueurs de genre sont similaires. La tendance en matière de reconnaissance du troisième genre semble encore meilleure grâce à la reconnaissance récente du troisième genre par l'Inde et le Pakistan. Dans la plupart des pays, les droits LGBT+ restent largement non protégés. En effet, bien que les relations homosexuelles soient légales dans de nombreux pays, ce n'est pas le cas partout. Dans certains pays, les relations entre hommes de même sexe sont illégales et dans d'autres, elles peuvent être punies de prison, voire de mort. Même dans les pays où les relations homosexuelles sont légales, l'âge du consentement peut être plus élevé que pour les partenaires de sexe différents. Le mariage entre partenaires de même sexe. Quelques dizaines de pays autorisent le mariage entre partenaires de même sexe, affirmant ainsi leur droit d'aimer et de fonder une famille. La plupart d'entre eux autorisent également les couples de même sexe à adopter ensemble, offrant de cette manière un foyer stable et aimant à un plus grand nombre d'enfants. De plus en plus de pays reconnaissent légalement ces unions par le biais d'unions civiles ou autorisent les couples à vivre ensemble. Cependant, la plupart des pays ne reconnaissent pas le mariage entre personnes de même sexe ou l'interdisent catégoriquement. Dans ces pays, les couples de même sexe ne peuvent obtenir de reconnaissance officielle de leur union par l'État, ni prétendre à des avantages matrimoniaux, tels que des pensions de retraite, ni partager la garde de leurs enfants. La transition de genre. L'étude identifie les pays qui autorisent le changement de genre sur les documents officiels, sans restriction, validant ainsi l'identité de genre et réduisant les erreurs de genre, la discrimination et le harcèlement. Dans des dizaines d'autres pays, un diagnostic médical ou une intervention chirurgicale sont nécessaires au préalable. Toutefois, dans de nombreux pays, changer de genre sur les documents officiels est illégal. Par conséquent, de nombreuses personnes doivent vivre avec la douloureuse tension entre le genre indiqué dans leurs documents et leur identité de genre réelle, et ne peuvent obtenir aucune aide de l'État pour recevoir des soins affirmant leur genre. L'étude montre que plus d'une douzaine de pays reconnaissent un genre autre que homme ou femme dans les documents officiels, offrant de cette manière une validation et une protection contre la discrimination. Quelques pays supplémentaires reconnaissent au moins légalement les personnes intersexuées. Mais, dans la plupart des cas, les troisièmes genres ne sont pas du tout reconnus légalement. Et même lorsqu'ils le sont, cela peut parfois être un motif d'exclusion. Lorsque nous combinons les données relatives à ces politiques à d'autres données, comme la discrimination en matière de logement et d'emploi, la censure, la chirurgie des nourrissons intersexués et les soins d'affirmation de genre, pour obtenir un indice global d'égalité juridique, nous constatons également une protection très inégale des droits LGBT+ à travers le monde. Des dizaines de pays ont mis en œuvre des politiques plus régressives et hostiles. Alors que certains pays ont accordé davantage de droits aux personnes LGBT+, d'autres évoluent dans la direction opposée. S'appuyant sur les données du chercheur Christopher Velasco, l'étude démontre l'augmentation significative du nombre de pays interdisant explicitement le mariage entre personnes de même sexe. En 1991, 5 pays interdisaient explicitement le mariage entre personnes de même sexe. En 2019, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, 37 pays appliquaient de telles interdictions, principalement en Europe de l'Est et en Afrique subsaharienne. Si auparavant, l'absence de dispositions légales signifiait souvent que le mariage entre personnes de même sexe était impossible dans ces régions, il existait au moins un risque que les lois existantes soient interprétées et appliquées différemment. Ainsi, les droits LGBT+ se polarisent de plus en plus. De moins en moins de pays n'ont pas de loi explicite sur la question, tandis que certains deviennent plus progressistes et d'autres plus régressifs. Deux autres exemples de politiques régressives récentes sont les lois qui interdisent la propagande en faveur des relations sexuelles non traditionnelles, qui discriminent les personnes LGBT+, au nom de la protection de la moralité publique, et quelques pays qui imposent la peine de mort aux relations entre personnes de même sexe alors qu'ils ne l'avaient pas fait auparavant. Le monde est encore loin d'être égalitaire sur ces questions. Certaines régions du monde sont devenues beaucoup plus accueillantes envers les personnes LGBT+. Il y a quelques décennies à peine, la plupart des personnes ne pouvaient pas, légalement, entretenir de relations homosexuelles et aucune ne pouvait épouser un partenaire de même sexe, adopter un enfant avec lui ou faire reconnaître son genre légalement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Très peu de pays ont instauré des droits juridiques complets en faveur des personnes LGBT+. Et changer les lois ne suffit pas. Il faut aussi transformer les mentalités. Nous devons réduire la discrimination à l'égard des personnes LGBT+ dans leur vie quotidienne, notamment en luttant contre les violences disproportionnées dont elles sont victimes et en garantissant leur égalité d'accès aux soins de santé. Les tendances historiques et récentes montrent que des progrès en matière des droits LGBT+ sont possibles. Mais il reste encore beaucoup à faire pour bâtir des sociétés où les personnes LGBT+ peuvent s'épanouir sur un pied d'égalité. C'était « Les droits LGBT+, mieux protégés dans des dizaines de pays, mais pas reconnus dans la plupart », un texte d'Yves Lafontaine paru le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Histoire de nos héros, Ron Farah, un texte de Serge Fizette paru le 23 avril 2025 dans le magazine Fugue. Déjà 32 ans depuis la disparition de l'homme d'affaires d'origine libanaise Ron Farah dans la fleur de l'âge. Se sachant atteint du sida, il manifesta alors le désir de créer la Fondation Farah en 1992, que poursuivront sa mère, Evelyn Farah, et ses sœurs après son décès. L'un des vœux de Ron Farah était de mettre sur pied une grande marche annuelle dans les rues de Montréal dans le but d'aider les gens atteints de la maladie et de sensibiliser la population, notamment les jeunes. La première édition de sa marche s'est déroulée le 3 octobre 1993, regroupant des supporters venus des quatre coins du Québec. En 2014, la manifestation a rassemblé près de 4000 personnes pour une marche de 7 km à partir du parc Émilie-Gamelin dans le village. En 2016, la marche a pris la forme d'un événement bénéfice en ligne. La Fondation a organisé aussi un gala annuel, Mascarade, offrant une thématique différente à chaque édition. En 2011, par exemple, au marché Bon Secours, on a voulu souligner la vie, l'amour, l'espoir, en invitant des photographes montréalais de renom à interpréter le thème en s'inspirant d'une photo noir et blanc de Ron Farah. Captée au bord de la mer, l'image illustre la façon dont il célébrait la vie chaque jour. Rappelons que, pendant 3 décennies, elle a remis des millions de dollars à des organismes communautaires. En 2017, elle est fusionnée à la Fondation québécoise du SIDA. En hommage à Ron Farah et à la Fondation qui porte son nom, on a réalisé une murale sur laquelle est écrite une citation de Ron. « Le SIDA disparaîtra un jour. En attendant, nous avons l'opportunité d'apprendre et de grandir, et nous devons le faire. » Située au départ à l'angle des rues Wolfe et Sainte-Catherine, l'œuvre s'était dégradée au fil des ans. En cette année où l'on marque les 40 ans de l'existence du VIH-SIDA, souligne André-Constantin Passiour, il est bon de rappeler ces Montréalais qui se sont battus contre la maladie, contre la discrimination et contre la société pour améliorer le sort de leurs semblables. C'est ainsi que, grâce à une initiative citoyenne, la fresque a été reproduite par MU et repeinte par X-Ray, Brian Lanier, un artiste pop issu du milieu du graffiti et des arts de la rue, le même qui a réalisé la murale « Restauration » sur la rue Atatecan. Désormais, la murale de Ron Farah orne le mur du dépanneur Couche-Tard sur la rue Baudry, près de Sainte-Catherine. Elle perpétue son engagement dans la lutte contre le VIH-SIDA et constitue en soi un objet mémoriel, laissant une trace au sein de nos communautés. C'est un appel à l'action individuelle et collective, un message porteur d'espoir au regard de plusieurs décennies d'épidémie. Le sociologue de la santé, Gabriel Gérard, a répertorié divers lieux de souvenirs marqués par l'histoire du VIH-SIDA, dont le Parc de l'Espoir, le Parc Raymond Blain et, bien sûr, la murale de Ron Farah. Toutes ces traces urbaines dans le quartier gay de Montréal permettent ainsi de voir et de mieux comprendre les ramifications mémorielles d'une épidémie qui perdure. C'était « Histoire de nos héros », Ron Farah, un texte de Serge Fizette paru le 23 avril 2025 dans le magazine Fugue.